La voix des jeunes face aux addictions. Une action jeunesse pour garder des bonnes ondes. Avec InfoRC, cultivons des attitudes positives pour notre santé.
Une action soutenue par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, la MIDECA, Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Conduites Addictives et l'Éducation Nationale.
Bonjour, nous sommes Mila,
Aélis
et Héloïse,
élèves au Collège Roca d'Aubenas.
Nous participons à l'atelier radio d'InfoRC.
Aujourd'hui, nous interviewons Marion Parra. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Mais bien sûr, bonjour. Je suis Marion Parra, je travaille à l'École des parents et des éducateurs de l'Ardèche, qu'on appelle l'EPE 07.
Dans quelle structure travaillez-vous ?
Ah, et bien justement, je travaille dans une association qui s'appelle l'École des parents et des éducateurs de l'Ardèche.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Ah, alors là, excusez-moi, je ne vous ai pas parlé de mon métier. Moi, je suis sociologue et je travaille à la coordination de l'association l'École des parents et des éducateurs de l'Ardèche. Et j'ai choisi le métier de sociologue parce que je m'intéresse tout particulièrement à comment fonctionnent les groupes sociaux et comment les personnes s'inscrivent dans un groupe. Et donc, pour l'École des parents et des éducateurs, c'est la famille. Et donc, je m'intéresse à les relations entre les membres de la famille et le groupe familial avec la société, pour faire simple.
Quand a été fondé l'EPE 07 ?
Il a été fondé en 2001.
Et par qui ?
Par un groupe de parents, mais qui était PAMÉ, un groupe de parents qui étaient aussi des professionnels de l'action sociale et du champ éducatif, et qui avait envie de créer des lieux où les parents pouvaient se retrouver, échanger entre eux et trouver des solutions quand ils avaient des problèmes ou des difficultés.
Pourquoi faites-vous partie de cette association ?
Pourquoi je fais partie de cette association ? En fait, j'ai été avec le groupe de parents qui ont créé l'association en 2001, et au fil des années, j'ai suivi un petit peu ce qui se passait. Et j'ai participé à les premiers groupes de rencontres à l'école de Beausoleil en 2004 ou 2005. Et de fil en aiguille, j'ai suivi l'évolution et le développement de cette association. Donc ça, c'est du côté très pratico-pratique. Et puis c'est aussi parce que j'ai à cœur de pouvoir accompagner, soutenir, encourager et défendre la cause des parents et de la relation avec leurs enfants.
Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette association ?
Depuis longtemps, depuis 2008.
Quel est votre rôle ?
Alors, moi, j'ai le rôle de... J'accueille des familles dans le cadre d'un point écoute famille, parce que j'ai une formation à la stratégie thérapeutique systémique, ce qui m'aide aussi et qui complète mon métier de sociologue pour accueillir le groupe familial, les mères roseaux. Et je participe à l'accueil des familles dans le cadre du lieu ressources parentalité. On a 2 jours et demi qui sont ouverts pour informer, pour orienter, pour soutenir les familles à l'association. Et je suis aussi à la coordination de toutes les différentes actions.
Mais c'est quoi les mères roseaux ?
Les mères roseaux, ce sont des mamans qui plient comme le roseau quand les choses sont très difficiles dans la vie, mais qui ne rompent pas parce qu'elles ne peuvent pas lâcher, elles ne peuvent pas abandonner leur rôle de maman parce qu'elles sont seules avec leurs enfants et que leurs enfants, ils ont besoin d'eux. Et en fait, c'est un groupe de femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui se retrouvent une fois par mois sur 7 différentes communautés de communes du Sud Ardèche. Et donc le groupe s'appelle les Mères Roseaux.
Qu'est-ce qu'une addiction ?
Qu'est-ce qu'une addiction ? Alors, une addiction notamment aux produits psychotropes, c'est un état dans lequel on se retrouve quand on a commencé à consommer ces produits et qu'on arrive à un point où on ne peut plus du tout s'arrêter, on ne peut plus s'en passer parce que ça apporte à la fois du bien-être, du refuge, C'est une addiction parce que c'est très difficile de s'en passer sans être accompagné, soit médicalement, soit psychologiquement.
Comment elle se manifeste et comment on la détecte ?
C'est pas tellement le champ de mes compétences, puisque nous sommes vraiment sur le soutien à la fonction parentale et à la relation parent-enfant. Mais parfois, on a des familles qui viennent nous voir parce qu'il y a une problématique d'addiction. Est-ce que vous avez une addiction en tête en particulier ou n'importe quel type d'addiction ?
Quand on n'arrive pas à s'arrêter de fumer, par exemple.
Ok, et c'est de ce sujet-là que vous aimeriez parler
ou il y avait... écrans plutôt.
Quand vous m'aviez appelé, c'était plutôt en ce qui concernait les écrans. Hein.
Oui, oui.
On parle là-dessus.
Bon, oui.
Parce que je serais peut-être plus à l'aise, même si pendant 13 ans, j'ai travaillé à l'ANPA, ce qui s'appelle aujourd'hui France Addiction. Donc vous avez peut-être entendu parler. Et là, ce sont vraiment des spécialistes, des psychologues, des éducateurs qui abordent très précisément la question des addictions.
Mais juste, ça veut dire que quand vous êtes à l'EP07,
l'EPE, oui.
vous travaillez sur n'importe quelle sorte d'addiction ?
En fait, moi je ne travaille pas sur les addictions, on n'est pas sur l'accompagnement des addictions, mais vous imaginez bien, une addiction, ça arrive à des personnes qui vivent dans des familles, soit des jeunes qui sont avec leurs parents, soit des parents qui ont aussi des responsabilités familiales. Et donc, quand ils viennent nous voir, par rapport à des difficultés autour de la relation familiale, parfois, il y a aussi la problématique de l'addiction.
Mais j'ai une question. Mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent à l'EPE 07, mais comment ?
Non, on n'est pas très nombreux. On est trois.
Okay.
On est trois. On est deux à accueillir les parents. Il y a donc Julie, qui travaille avec moi, qui est elle aussi, ce qui peut vous intéresser. Elle est référente parentalité numérique sur le promeneur du net. Et donc, elle va recevoir des appels et des interrogations de la part des parents qui sont inquiets sur la place des écrans dans la vie de leurs enfants ou même dans la vie de leur famille.
Pourquoi les addictions aux écrans sont-elles un problème ?
Alors... En ce qui concerne la vie familiale, déjà, ça a été introduit il y a quelques décennies, ça ne fait pas très longtemps que les écrans ont commencé à vraiment poser un problème, parce que ça vient changer la qualité des relations au sein de la famille entre parents, enfants, et entre les enfants et entre les parents d'ailleurs. Donc ça l'a changé, ça ne veut pas dire que c'est toujours une problématique. Mais ça transforme complètement le temps que les gens passent ensemble, que les parents et les enfants passent ensemble. Et ça vient aussi introduire, alors ça dépend de quels écrans on parle. On peut parler des écrans par les smartphones. On peut parler aussi des réseaux, des jeux vidéo, de la place des écrans dans la télévision, les ordinateurs et la Switch, en fait, tous ces éléments-là. Donc, il y a vraiment un large spectre d'outils qu'on appelle les écrans. Et chacun touche et peut avoir un problème au niveau de la relation familiale différent. Par exemple, pour le temps passé sur les écrans, et la place des écrans dans la vie des tout-petits peut vraiment poser peut être préoccupant parce que ça vient freiner l'ensemble de son développement et notamment son développement psychomoteur. Quand un enfant est collé devant un écran, tout ce qui tourne autour, par exemple, de la motricité fine, vous savez, ils apprennent à utiliser leurs doigts pour monter des cubes, pour essayer de faire des dessins, ça, ils ne le développent pas. Donc ça interroge sur l'ensemble des différentes capacités qu'un enfant développe de 0 à 3 ans. Et que le plus de temps il passe devant l'écran, le moins il va pouvoir développer ce genre de choses. Pour les plus grands, c'est tout ce qui tourne autour de la créativité. C'est-à-dire le plus de temps ils vont passer sur un écran, le moins de temps ils vont passer sur leur imaginaire et la créativité. Voilà. Donc la façon dont c'est géré par la famille et par les parents... va permettre à l'enfant d'être à la fois sur les écrans et de voir des vidéos, de participer à des jeux un peu éducatifs, et en même temps de pouvoir développer toutes ces compétences nécessaires à son développement à la fois moteur, émotionnel, et psychologique et social.
Comment vous avez été formée pour faire ce travail ?
Alors, le travail de sociologue d'accompagnement des parents, j'ai fait une formation universitaire sur la sociologie de la famille et notamment aussi la sociologie des discriminations. Et dans le cadre de mon travail, nous faisons partie de la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs. Et il y a de nombreuses formations chaque année sur différents sujets. Et il y a un monsieur qui est très connu qui s'appelle Serge Tisseron qui a suivi l'arrivée des écrans dans la famille depuis la télévision dans les années 70. C'est un monsieur qui est déjà assez âgé mais qui connaît pratiquement tous les jeux vidéo existants parce qu'il les étudie et que ça l'intéresse. Et nous avons été formés régulièrement dans ce cadre-là. Et quand je travaillais à l'ANPA, qui est aujourd'hui France Addiction, j'avais régulièrement des formations autour de la prévention des addictions et des conduites à risque.
Quelles sont les répercussions sur la santé ?
Alors, tout dépend. Tout dépend de quel va être l'usage des écrans. Hein. On reste sur les écrans, c'est ça ? Ouais. Tout dépend de l'usage qui va en être fait. En termes d'utilisation des écrans, vous avez quatre types de joueurs ou en tout cas d'utilisateurs des écrans qui a été repéré notamment par des laboratoires de recherche en psychiatrie, en éducation, etc. Et ils ont repéré, je vais vous les donner, ils ont repéré le joueur normal. Alors c'est toute personne qui utilise les écrans et qui joue aux écrans sans que ça l'empêche, par exemple, de s'investir à l'école, d'avoir des activités de loisirs, de passer du temps avec sa famille et de passer du temps avec ses amis, mais qui apprécie jouer un peu comme toutes les autres activités. On a une fille qui ne fait que lire. Elle lit, elle ne fait que lire. Et pour eux, ils me posaient les mêmes questions que certains parents qui sont avec un adolescent qui ne fait que jouer.
Mais ça ne pose pas vraiment pas au problème, ça.
Eh bien, ça ne devrait pas poser un problème, mais le fait que la jeune fille s'enferme dans sa chambre pour lire, elle se coupe des relations familiales, elle se coupe des relations amicales, et du coup, les parents étaient inquiets. Mais en ce qui concerne le joueur ou l'utilisateur normal, qui a quand même une vie sociale, une vie scolaire, ou pour les parents, une vie professionnelle qui est équilibrée, ce n'est pas un problème, c'est même un atout. C'est une nouvelle technologie qui amène de nouvelles informations, de nouveaux accès aux différents centres d'intérêt. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et puis, vous avez l'utilisateur qui est plus qui tend vers une utilisation trop fréquente et puis trop intense. Et là, ce n'est pas vraiment un problème, mais l'intervention des parents pour l'aider à réguler est hyper importante. Parce que ça peut glisser vers ce qu'on pourrait appeler de l'addiction. Et donc il y a le deuxième groupe d'utilisateurs des écrans ou de joueurs qui commence à peut-être faire moins ses devoirs, à voir moins ses copains et ses copines, ou des parents qui sont moins impliqués dans la vie de la famille, parce que c'est très important de peut-être finir ce jeu ou de voir cette émission. Et donc là, c'est les premières alertes. Et puis, vous avez le troisième qui... Alors là, par contre, une personne... Alors là, on va parler des enfants ou des adolescents, mais c'est aussi vrai chez les adultes, qui va passer et s'enfermer dans sa chambre pour pouvoir jouer, mais de façon beaucoup plus individuelle. Peut-être en ligne avec des personnes, parce que vous savez, dans les jeux en ligne, on crée des guildes,
et
des
groupes. Et on parle aussi un peu avec des gens, ils nous invitent et après on reste tout le temps avec eux et après ils nous parlent et des fois on peut se faire harceler quand...
Tout à fait.
On peut se faire...
Tout à fait. Et ça c'est la prise de risque. Là j'étais sur le type de joueur. Mais effectivement quand tu as un joueur raisonnable, normal, tu es beaucoup moins exposé au risque d'intrusion dans ta vie. En créant des guildes, en rentrant sur des réseaux d'inconnus qui peuvent venir vous parler. Donc effectivement, ça, c'est vraiment un risque. Et puis le quatrième type de joueurs, ce sont les personnes qui ont vraiment besoin d'accompagnement parce que, ben, par exemple, l'intervention des parents n'est plus du tout entendue, n'est plus du tout respectée et c'est identifié comme plutôt un signe de souffrance personnelle, de souffrance liée à des événements de la vie qui peuvent être multiples et variés.
Pourquoi beaucoup d'enfants sont addicts aux écrans ?
Bah parce qu'ils s'y amusent super bien. Non, je plaisante. Enfin, je plaisante pas, c'est aussi vrai ça. C'est parce que les... Je sais pas si vous, des fois, vous faites des jeux vidéo.
Oui, un peu, oui.
Et est-ce qu'il y en a que vous aimez bien ?
Oui. Oui.
Est-ce
oui.
qu'il y en a que vous aimez mieux que d'autres ?
Oui.
Alors, lesquels ?
Moi...
Vous m'en dites un chacune.
Moi, à peu près Roblox.
Moi, c'est Minecraft.
Minecraft, ben oui.
Moi, ouais, Fortnite.
Et toi, tu es aussi sur Fortnite. Donc là, et tu es avec des guildes aussi ?
Non, moi j'ai pas de...
Tu n'as pas d'équipe.
J'y joue avec mes amis, mais après j'ai pas de micro.
Ni de casque.
Ouais,
de...
Pour échanger. Oui, mais tu es sur le chat.
Oui.
Ouais. Mais tu ne joues qu'avec tes amis.
Oui.
Ok.
Et moi, enfin aussi pour Fortnite, en fait, j'ai pas de chat, je peux pas discuter. J'ai aussi des groupes, par contre, dessus.
Et que tu connais pas. De gens que tu connais que grâce au jeu.
Surtout par contre, des gens que je connais, par contre.
Ah, que tu connais.
Oui, comme par exemple des amis de mon ancienne école ou...
Ok. Mm.
Mais bon, moi, sur Fortnite, je peux pas y aller dessus, donc je vais sur Roblox. Je joue avec mon frère ou une de mes meilleures amies. Des choses comme ça, je fais, mais pas avec des personnes que je connais pas.
Ok. Mais du coup, je reviens à votre question. Pourquoi est-ce que de plus en plus vous avez dit d'enfants ou d'adolescents
D'enfants.
Mais c'est d'une part parce que ce sont des jeux qui sont prenants, qui sont intéressants, qui sont stimulants. Comme vous pouvez jouer en ligne avec peut-être des amis que vous ne voyez plus, bah, du coup, c'est aussi un lieu de rencontre. Donc, c'est un peu comme toute activité qui est satisfaisante, où on se fait plaisir, où on apprend des choses. C'est tout à fait logique qu'on ait envie d'y aller. Mais c'est aussi parce que les fabricants, utilisent des biais cognitifs qui viennent simplement stimuler vos au niveau du cerveau, vos connaissances, vos capacités intellectuelles, vos centres d'intérêt, et ils viennent les stimuler pour que vous ayez de plus en plus envie de jouer parce qu'il faut qu'ils vendent.
Mais comment ils peuvent le faire pour que ça puisse... qui donne autant d'envie à jouer.
Alors, ce que je comprends, moi, des algorithmes, mais là, il faudrait demander plus à un spécialiste au niveau de l'algométrie, c'est qu'il repère, par exemple, le jeu que toi, tu aimes bien, qui est Minecraft. Donc, les algorithmes vont repérer que tu te connectes facilement à Minecraft ou à Fortnite. Et du coup, ils vont vous envoyer systématiquement des jeux ou des informations qui sont en lien avec les choses vers lesquelles vous allez déjà. Avec la musique, ça se fait beaucoup. En admettant que vous aimez... quel style de musique vous aimez, par exemple ?
Joule.
Ok. En admettant que tu aimes bien Joule, les algorithmes, ils vont remarquer... que tu écoutes Joule souvent et que c'est un style de musique. Donc, ils vont te proposer plein de styles de musique qui ressemblent à la musique de Joule, mais ils ne vont pas te proposer de musique classique, alors que peut-être tu aimerais beaucoup un morceau de musique classique ou du rock'n'roll ou de la salsa ou du jazz ou peu importe. Mais les algorithmes ont repéré ce que tu aimes bien et ils vont t'en envoyer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, en fait, ça enferme un petit peu dans ce qu'on appelle un entre-soi.
En fait, ça trie les informations. En fait, quand par exemple, en fait, c'est un peu ça, quoi.
Exactement. Ça trie les informations de ceux qui t'intéressent. Et du coup, ils vont retrouver des informations qui t'intéressent et ils vont continuer à te les envoyer. Et comme ce sont des informations qui t'intéressent, même si c'est pas directement lié avec ce que tu fais au quotidien, mais que ça y ressemble, ben, tu vas y aller. Et ça te stimule et ça stimule ta curiosité. Bon, je suis pas experte en la matière, mais je crois pouvoir dire que c'est ça.
À partir de combien d'heures ?
Alors ça dépend des tranches d'âge. Il y en a qui disent 0-3 ans, pas une minute devant les écrans. Il y en a qui disent, quelques instants. Moi, personnellement, je serais partante, mais ça, c'est moi, hein, avec l'accompagnement que je fais auprès des tout-petits-enfants et des parents avec des petits-enfants et des adolescents. On voit bien que tant que les enfants sont ouverts à toutes sortes d'activités et que le temps d'écran est limité, ben, ça va leur permettre de développer plein de compétences et plein de curiosités pour d'autres choses que les écrans. Donc, de 0 à 3 ans, moi, je suis une adepte de pas l'écran. De 3 à 6 ans, des écrans aussi bien limités en temps, mais aussi limités et en étant très vigilant de ce qu'on permet aux enfants de voir. Il faut que ce soit des activités qui soient adaptées à leur âge.
Comme par exemple, on ne peut pas faire voir à un enfant de 6 ans Jurassic Park ou Jurassic World, par exemple.
Heureusement. Ça fait flipper, là. Je pense qu'il fait des cauchemars toute la nuit, non?
Parce que moi, je l'ai vu quand j'avais 6 ans, donc...
Et ça t'a marqué?
Oui, un peu.
Ah oui, mais oui. Oui, oui, nous, on a accueilli une famille, un enfant qui est un bon dormeur. Alors, évidemment, il n'avait pas d'écran quand il était petit. Il est allé chez des amis. C'était il y a longtemps. Enfin, c'était il y a longtemps. Oui, c'est pour vous, c'était il y a longtemps. C'était il y a une dizaine d'années. Et le garçon, il devait avoir 8 ans. Et ils ont vu un film, une vidéo... Pardon, un dessin animé avec la reine blanche, la reine...
Ah, c'est Narnia?
Hein? Je ne connais pas.
C'est un dessin animé. C'est un film de magie avec la reine blanche.
Et ce gamin n'arrivait plus à dormir. Il avait été terrorisé par cette reine blanche parce qu'il y avait eu... Alors moi, je ne l'ai pas vu, hein, ce dessin animé, ce film. Mais oui, il faut absolument que ce soit adapté. Il y a une question qui se pose très souvent, ce sont les informations. Ne laisser des enfants regarder les images qui nous sont passées à la télévision au moment des informations peuvent être très, très perturbantes parce que c'est la réalité.
Ah oui, des fois, si un enfant est sur la télé, ses parents ils regardent les informations et qu'il y a un attentat, ça dit attentat...
Les attentats, les guerres, oui. Les grands incendies qu'il y a eu en Californie. Voilà, il y a des choses comme ça qui ne sont pas recommandées pour les plus petits enfants. Après, il faut quand même revenir sur les histoires d'heures. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelait 3, 6, 9, 12. Qui a été réadapté parce qu'il y a 15 ans, il était quand même très rigide.
Ça veut dire quoi?
Eh bien, de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, de 6 ans à 9 ans, de 9 ans à 12 ans. Et il y a des tas de recommandations sur le nombre d'heures et le type de visionnage qui sont recommandés. Et dès que vous dépassez les 2-3 heures par jour, ben, vous avez explosé votre temps d'écran, sachant que vous passez 8 heures au travail ou 8 heures à l'école, et qu'ensuite vous passez entre 8 et 10 heures à dormir, si vous avez plus de 2 heures sur les écrans, qu'est-ce qui vous reste pour les relations familiales, pour faire d'autres activités?
Quelle tranche d'âge est-elle la plus touchée?
Alors moi, de ce que je sais, ce sont les adultes. C'est la tranche d'âge des adultes qui sont le plus pris par le visionnage des écrans. Et sinon, chez les jeunes, il semblerait qu'effectivement, c'est les 14-20 ans.
Mais pourquoi les adultes les plus touchés par les écrans?
Parce que les écrans et tout type d'écran sont devenus incontournables pour notre vie quotidienne. On a nos téléphones et pour pouvoir rester en lien avec les enfants, on utilise le téléphone. Savoir où est partie notre fille, pouvoir appeler notre garçon quand on veut savoir s'il va être à l'heure, pouvoir rejoindre tout le monde tout le temps. Donc les parents sont très très pris par leur smartphone. On travaille sur les écrans.
Mais est-ce que c'est normal que par exemple une maman est avec son enfant et pour manger, elle est tout le temps sur son téléphone,
Mais c'est exactement ce que je dis, c'est que très souvent, les parents sont beaucoup trop pris par les écrans. Est-ce que le téléphone, ben c'est un très bon exemple, est-ce que le téléphone, dans votre famille, vos parents le posent
oui,
quand on mange à table?
Oui.
Pas tout le temps.
Pas tout le temps.
Ça dépend, mais oui, normalement, oui.
Mon père, oui, mais ma mère, non.
Voilà. Il y a des, selon les familles. Oui, et c'est pour ça que, sans s'en rendre compte, nous, adultes, on est aussi pris dans cette utilisation de toute forme d'écran. C'est-à-dire que si on n'a pas notre téléphone, ça risque d'être notre ordinateur pour regarder une série, pour regarder, je ne sais pas, un match de basket, pour regarder... en ce moment, il y a les féminines au rugby qui jouent là, au tournoi Destination. Bon, ben, y a des gens qui sont pris dans ces... Et du coup, qui sont collés aux écrans, et ça empêche d'avoir une relation complètement concentrée avec les personnes qui sont avec nous.
Comment peut-on arrêter d'être accro aux écrans?
Certainement en régulant le nombre d'heures qu'on y passe, mais surtout en se faisant plaisir quand on n'est pas avec les écrans.
Oui.
C'est-à-dire que si les écrans ils viennent combler de l'ennui, de l'angoisse, de la tristesse, s'ils viennent combler le fait qu'on n'est pas très à l'aise quand on est tout seul avec soi-même, ça va être compliqué. À partir du moment où on trouve une activité où il n'y a pas besoin d'écran et où on se fait du bien, une activité sportive, on se fait du bien physiquement et mentalement, une activité culturelle où on travaille sur notre créativité ou si on est inspiré par d'autres artistes, une activité intellectuelle où on apprend de nouvelles choses, on lit, on échange, on fait des échanges avec les copains et les copines, ou simplement de rencontrer de nouvelles personnes, de socialisation. En se développant d'autres capacités, d'autres compétences qui sont satisfaisantes, ben ça va être beaucoup plus facile d'arrêter les écrans. Et puis, il y a aussi en régulant et en se tournant vers les personnes qui peuvent vous accompagner pour vous aider à arrêter.
Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes et aux parents? Surveillance, nombre d'heures strictes, égal au contrat.
Le premier conseil, c'est d'arriver à en parler et de parler de l'utilisation des écrans à froid. Vous connaissez l'expression à froid? Pas quand on est énervé. Je vais vous donner l'exemple d'un papa et de son fils qui sont en difficulté parce que le papa travaille beaucoup. Et du coup, son garçon fait ses activités qu'il a à faire. Puis après, il se met sur ses jeux. Et ils sont tombés d'accord sur un certain nombre d'heures par jour. Mais parfois, quand le papa rentre, eh ben, le fils est en train de jouer et il n'a pas fini sa partie. Donc, il dit à son père, il me reste 10 minutes pour finir la partie. Donc, son père lui dit, banco, tu as tes 10 minutes pour finir la partie. Mais évidemment, ben, la partie, elle dure. Et donc, le papa se met, s'impatiente et les deux se disputent. Ce n'est pas possible de discuter du temps passé sur les écrans quand on est très énervé. Donc, le premier conseil, c'est quand tout va bien. On est autour du petit déjeuner ou du goûter et qu'on n'est pas sur les écrans, on en parle. Et on tombe d'accord sur qu'est-ce qu'on attend de la part de son enfant, qu'est-ce qu'il peut regarder, combien de temps il peut y passer et qu'est-ce qui se passe quand il dépasse son temps. Voilà. Et comment est-ce qu'on se met d'accord? Il faut se mettre d'accord sur comment...
Parce que, par exemple, moi, j'ai une appui, c'est le contrôle parental. Au moins, je sais que j'ai mon père qui peut voir ce que je fais. Donc, si je fais n'importe quoi, il peut directement me bloquer. Et puis, ça s'arrête à 21h, mon téléphone. Donc, je l'ai plus directement. Et puis, j'utilise pas vraiment... J'utilise souvent pour faire mon appli Duolingo, c'est pour apprendre de l'anglais. Donc,
voilà, il y a le contrôle parental. Mais j'ai cru comprendre que le contrôle parental, c'est une façon de pouvoir réguler le nombre d'heures et savoir le nombre que vous... Mais
oui,
c'est
et voir
une
ce
autre...
qu'on fait.
Voilà, mais c'est une autre chose de l'arrêter.
On peut l'arrêter et pour peut voir l'arrêter. Si j'abuse, par exemple.
Voilà, donc il faut que tomber d'accord sur comment est-ce qu'on va utiliser ce contrôle parental pour accompagner. Mais c'est surtout qu'il faut arriver à en parler et se dire que c'est pas grave si on n'est pas d'accord. Mais qu'il faut qu'on trouve un terrain d'entente pour éviter la consommation trop importante, pour éviter de prendre les risques de s'exposer à des sites ou des personnes qui peuvent venir s'introduire dans votre vie privée alors qu'ils ne sont pas invités à le faire, et puis pour éviter qu'il y ait trop de conflits au sein de la famille.
On arrive à la fin de cette interview. Voulez-vous ajouter quelque chose ?
Ben, j'ai un petit peu envie, si je peux me permettre. Je voudrais présenter, avec l'École des parents et des éducateurs, on anime des rencontres qui s'appellent, autour de l'utilisation des écrans, avec un jeu qui s'appelle Éduc'écran. C'est pour les parents, pour pouvoir justement arriver à échanger entre parents et se soutenir et se donner des idées. Et on aborde plusieurs thèmes qui ont affaire aux écrans. On aborde tout ce qui tourne autour de l'apprentissage à travers les écrans, tout ce qui a quel type d'autorité permet de pouvoir mieux réguler les écrans, de l'utilisation des écrans de nos enfants, quel impact ça a sur leur santé, à quel rythme est-ce qu'ils peuvent les utiliser en fonction de leur âge, comment est-ce que les relations changent ou s'améliorent ou s'abîment quand il y a trop d'utilisation d'écran ou peu, et puis comment est-ce que ça permet aux enfants et aux adultes d'arriver à une certaine autonomie. Donc ça s'appelle Éduc'écran. Et on l'anime une fois par mois à l'École des parents et des éducateurs. Donc moi, j'invite les parents à s'inscrire et à venir échanger avec nous autour de ce jeu.
On termine avec la question traditionnelle. Comment trouvez-vous la radio Info RC ?
Je trouve que c'est une super initiative de radio de proximité et qui donne la parole justement, qui donne la parole aux jeunes et aux enfants. Donc je trouve elle est bienvenue, elle est importante et je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée.
Merci à notre invitée Marion Parra de l'école des parents et des éducateurs d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Aujourd'hui, Nila,
Aélis
et Héloïse,
élèves au collège Roca d'Aubenas, vous ont présenté le magazine Mosaïque.
À bientôt sur le 88.6 et le 97.2.
La voix des jeunes face aux addictions. Une action jeunesse pour garder des bonnes ondes. Avec Info RC, cultivons des attitudes positives pour notre santé.
Une action soutenue par l'ARS, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la MIDECA, mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives et l'éducation nationale.